Épître aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 11.
Lecture de la parole. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès, par la foi, à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance, et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour des impies. Car à peine pour un juste quelqu'un mourra-t-il, car pour l'homme de bien peut-être quelqu'un se résoudrait même à mourir. Mais Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup plus tôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant reçu la réconciliation.
Lecture de l'étude. Comme conclusion triomphante de ce qui vient d'être dit, ce chapitre commence par ces mots. Ayant donc été justifié sur le principe de la foi, il n'y a plus de doute qui subsiste, plus de questions qui se soulèvent. La justification de celui qui croit au Sauveur mort et ressuscité est une chose accomplie, une réalité actuelle. Celui qui croit en Jésus-Christ est justifié. Sa dette est payée, et il est en Christ ressuscité dans un tout nouvel état devant Dieu. La résurrection de Christ est la preuve évidente et éternelle que Dieu a accepté l'œuvre de la croix comme l'expiation pleinement suffisante pour nos péchés. C'est le fondement inébranlable sur lequel le Dieu juste peut se reposer et justifier quiconque est de la foi de Jésus. Nous avons à peine besoin d'appuyer sur le fait que nous n'avons contribué en rien à cette justification et que nous ne le pouvions pas. La seule part que nous y avons eue, ce sont nos péchés, qui ont coûté à notre Seigneur et Sauveur les souffrances indicibles et l'abandon de Dieu. Que pourrait ajouter à l'œuvre de notre salut notre foi, ou même la reconnaissance la plus profonde, ou le service le plus dévoué de notre part après notre conversion? Non, Dieu soit loué, l'œuvre est accomplie entièrement par Jésus-Christ notre Seigneur. Et non seulement elle est accomplie, mais elle est reconnue par le Dieu Saint comme pleinement suffisante. Celui qui, pour l'accomplir, a dû descendre dans le tombeau, est ressuscité d'entre les morts, et est assis maintenant à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur. Par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, verset 14. S'il n'en était pas ainsi, nous ne pourrions jamais être secourus. Christ, en effet, ne peut pas mourir une seconde fois, et nous savons que, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi, ou bien l'œuvre a été accomplie, ou bien notre part est un désespoir irrémédiable. Dans les 11 premiers versets de notre chapitre, l'apôtre montre les conséquences de cette justification et trace un tableau de la grâce de Dieu et de ses voies en grâce, telles qu'elles ne seraient jamais venues au cœur de l'homme. Guidés par lui, considérons-en les traits. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, verset 1er. Choses précieuses qui appartiennent à tous les croyants, sans exception. Nous sommes justifiés sur le principe de la foi, ce qui nous donne la paix avec Dieu, ces deux bénédictions par notre Seigneur Jésus-Christ. Le croyant sait qu'il est accepté en Christ. Il n'y a donc plus rien entre lui et le Dieu Saint que l'œuvre merveilleuse et la précieuse personne du Fils de Dieu. Toutes les autres choses ont été éloignées pour toujours. Les accusations d'une conscience coupable ne se font plus entendre. La conscience elle-même est purifiée. Le pécheur, autrefois hostile et haïssable, est devenu un enfant bien-aimé de Dieu. Ses péchés ne pèsent plus sur son cœur, car ils sont tous expiés et éloignés. Une paix solide s'est établie entre Dieu et le croyant. Rien ne peut ébranler le fondement de cette paix, ni le souvenir des péchés passés, ni le sentiment de la présence encore actuelle du péché dans le croyant, quoique ces deux choses soient douloureuses pour le cœur. La paix est faite, faite pour toujours par notre Seigneur Jésus-Christ, dont le sang se trouve continuellement devant les yeux de Dieu. Jamais une question relative au pardon de nos péchés et à notre acceptation devant Dieu ne pourra plus être soulevée. Pour éviter tout malentendu, mentionnons ici brièvement la différence qui existe entre les expressions « la paix avec Dieu » et « la paix de Dieu ». La première, la paix avec Dieu, est la conséquence ou le résultat de la justification sur le fondement de l'œuvre de Christ. Et pour cela, elle est la part commune à tous les vrais croyants, et elle ne peut se perdre. La possession et la jouissance de la seconde, de la paix de Dieu, dépendent de l'état du croyant, de la manière dont il se réjouit dans le Seigneur. Il ne s'inquiète de rien. Il expose en toutes choses à Dieu ses requêtes par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voir Philippiens 4, versets 4 à 9.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées, ce que vous avez et appris, et reçu, et entendu, et vu en moi, faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous.
Nous ne devons pas confondre l'état pratique de l'âme avec l'œuvre de Christ accomplie pour nous, et complètement en dehors de nous. Si chancelant et instable que puisse être et est souvent le premier, aussi solide et immuable est la seconde. L'amour de Dieu et sa justice se sont unis ensemble pour créer le terrain sur lequel nous avons la paix avec Dieu. Christ, notre paix, est maintenant sans cesse dans la présence de Dieu. Éphésiens 2, verset 14.
Car c'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture.
Lui qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice et sainteté, et rédemption, 1 Corinthiens 1, verset 30. Le second fruit précieux de la justification est que, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons trouvé aussi accès, par la foi, à cette faveur dans laquelle nous sommes, verset 2. Si jusqu'ici nous avons vu comment tout ce en quoi nous avions manqué dans notre état d'inimitié contre Dieu a été éloigné de nous, l'apôtre nous parle maintenant de la grâce qui a fait la paix et qui est sans cesse pour nous dans le cœur de Dieu, qui contemple en Christ avec bon plaisir tous ses enfants. Il nous aime comme il aime Christ, et nous pouvons sans cesse nous approcher librement de lui par Christ, par la foi, et bénéficier de la grâce dans laquelle nous sommes. Comme un autre l'a dit si bien, nous jouissons de cette faveur dans la présence de Dieu. Non seulement nous sommes justifiés par le juge céleste, mais c'est un Père céleste qui nous reçoit. Sa face rayonnante de lumière et d'amour paternel éclaire et réjouit nos âmes, fortifie nos cœurs qui sont parfaitement tranquilles dans sa présence, et ainsi nous avons le sentiment précieux que nous sommes dans la faveur de Dieu. En ce qui concerne nos péchés, ils ont tous été éloignés. En ce qui concerne notre position actuelle devant Dieu, tout est amour et faveur, dans la brillante clarté de sa face. Quant à notre avenir, c'est la gloire qui est devant nous. Précieuse parole écrite par un vénéré serviteur de Dieu, peu avant la fin d'une vie longue et richement bénie, au service de celui que son âme aimait. Elle montre combien précieuse était pour lui l'accès à cette faveur et combien il en faisait usage par la foi. Et ces paroles nous rappellent l'exhortation de Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et, considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. La même grâce qui les a soutenus, le même amour dont ils ont joui, sont notre part, et il ne dépend que de nous de jouir par la foi de la faveur dans laquelle nous sommes. Dieu soit béni, nous ne sommes pas venus à la montagne de la loi, ni au feu brûlant, ni à l'obscurité, ni à la voix de parole que ceux qui l'entendaient ne pouvaient supporter, mais à Sion, la montagne de la grâce, et à Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, à une grâce qui répond à tous nos besoins et qui est journellement à notre disposition dans toute sa plénitude. Nous arrivons maintenant à un troisième résultat de la justification, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. C'est la part assurée de tous les vrais croyants et qu'ils ne peuvent perdre. La gloire de Dieu est devant nous. Certes, si cela dépendait de notre persévérance et de notre fidélité, nul d'entre nous ne l'atteindrait. Or, Jésus est entré, comme notre précurseur, dans la gloire, et c'est lui qui nous y conduit. Lui qui est mort et est ressuscité d'entre les morts pour nous, nous l'a garanti. En effet, comment pourrait-il jamais perdre les bénédictions qu'il a acquises? C'est impossible, et c'est pour nous qu'il les a acquises. Il est notre sûr garant à cet égard. C'est pourquoi nous pouvons penser à l'avenir avec joie, et malgré la faiblesse et l'imperfection avec lesquelles nous marchons ici-bas, nous pouvons nous glorifier dans l'espérance certaine de la gloire. Dieu qui nous a révélé dans l'Évangile sa justice et sa puissance divine, qui nous a fait part de son amour et de sa faveur, veut aussi nous avoir avec Christ dans sa gloire. Dieu aurait-il pu s'occuper d'une manière plus merveilleuse de notre passé, de notre présent et de notre avenir? Il l'a fait selon la valeur de l'œuvre et de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce qui concerne le passé, plus d'inquiétude. Nous avons la paix avec Dieu. Pour le temps présent, nous sommes dans la faveur de Dieu, et pour l'avenir, la gloire céleste rayonne déjà sur notre chemin. On pourrait penser qu'il n'y a plus rien à ajouter à ce qui vient d'être dit, car il semble que nous trouvons là la position bénie d'un croyant entièrement décrite, ainsi que son chemin, depuis le commencement jusqu'au bout. Néanmoins, l'apôtre continue, et non seulement cela, verset 3, et répète la même parole au verset 11. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations. Le but de notre voyage n'est pas encore atteint. Entre l'Égypte et Canaan, il y a le désert. Il ne fait pas partie, il est vrai, du conseil de Dieu, mais nous devons y passer pour atteindre le but. C'est dans le désert que nous expérimentons les voies éducatrices de Dieu envers nous et que nous apprenons en même temps à connaître ce qu'il y a dans nos cœurs. Voir Deutéronome 8, verset 2.
et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ses commandements ou non.
C'est là que nous sommes mis à l'épreuve afin de montrer si réellement nous mettons toute notre confiance en Dieu et que nos âmes sont exercées. L'ennemi nous attaque, notre faible foi et notre incrédulité s'y manifestent. Notre nature tente à faire valoir ses droits et souvent nos pauvres cœurs sont enclins à se décourager ou à désespérer. Les expériences du désert ne sont pas, il est vrai, nécessaires à notre salut. Mais elles sont bénies pour notre être intérieur. Elles ne nous préparent pas pour entrer dans le ciel, car si c'était le cas, le brigand n'aurait pas pu être le jour même avec Christ dans le paradis. Toutefois, elles nous délivrent des influences terrestres, elles nous enseignent une complète dépendance de Dieu et nous font expérimenter sa fidélité. Nous éprouvons dans les afflictions l'amour et les soins de Dieu, la sympathie de son cœur paternel, comme nous ne le pourrions faire dans la gloire. Dans le ciel, nous n'aurons pas l'occasion de faire de telles expériences. La tribulation produit la patience. Les circonstances qui irritent et découragent celui qui ne croit pas et peuvent l'amener au désespoir produisent dans le croyant le courage et la patience au lieu de lui enlever son assurance. Et l'affliction le fait regarder en haut avec confiance. L'épreuve brise la propre volonté, crée dans le cœur des chemins frayés pour Dieu, purifie la foi de toutes ses imperfections et nous rend capables de nous attendre tranquillement à Dieu. L'affliction n'a rien à faire avec notre salut. Elle est destinée à éprouver notre état et à manifester si nous marchons selon l'appel et la position dans lesquelles le salut nous a introduits. Elle nous montre ce en quoi la vieille nature qui habite encore en nous, nous influence et produit l'humiliation et le jugement de nous-mêmes. Si l'affliction produit la patience produit à son tour l'expérience. Dans les souffrances et les difficultés, nous apprenons d'une part à nous connaître et d'autre part à connaître la bonté et la fidélité de Dieu. Nos cœurs sont délivrés de ce qui est terrestre, nos yeux détournés des choses présentes et dirigé sur les choses célestes, et par ce moyen, l'espérance de nos cœurs est rendue plus vivante. L'expérience produit l'espérance. Ainsi, les résultats bénis se suivent les uns après les autres, et au lieu que les difficultés du chemin produisent en nous l'impatience ou même les murmures, nous apprenons à nous glorifier dans les tribulations, et nous comprenons le pourquoi de bien des dispensations qui nous semblerait sans cela étrange. Nous fortifions nos mains en Dieu, qui aime ses enfants d'un tendre amour et fait concourir toutes choses à leur bien. Et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, verset 5. Avec cela, nous atteignons le point culminant de l'enseignement de l'apôtre dans ce passage. L'espérance, fortifiée en nous par l'expérience de la fidélité immuable de Dieu, ne peut pas rendre honteux, ne peut pas nous tromper, car le lien est établi entre Dieu et nous et ne peut jamais se rompre. Il nous a donné son esprit. Non seulement nous sommes renouvelés par l'opération de cet esprit, né d'eau et de l'esprit, Jean 3, verset 5.
Jésus répondit, « en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »
Mais le Saint-Esprit lui-même, mentionné ici pour la première fois dans notre épître, nous est donné comme sceau de notre foi et comme art de notre héritage acquis pour nous par Christ. 2 Corinthiens 1, verset 22.
« Nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. »
Éphésiens 1, versets 13 et 14.
Le Christ, en qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire.
Nos corps sont devenus les habitations du Saint-Esprit. Et, comme l'apôtre le dit ici, l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. Dans d'autres passages, il est ajouté que, par l'Esprit, nous disons « Abba Père » et que nous savons que nous sommes en Christ et Christ en nous, etc. Galates 4, verset 6.
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba Père ».
Jean 14, verset 16 à 20.
Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous.
Quelle merveilleuse réalité ! L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs en ce que le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, habite en nous. Cette vérité ne pouvait nous être communiquée avant que l'œuvre de la rédemption ait été placée dans toute sa plénitude devant nos yeux. Ce fait forme, comme nous l'avons dit, le point culminant des déclarations de l'apôtre. Comment le croyant saisit-il cette réalité? Comment jouit-il de l'amour de Dieu par l'opération du Saint-Esprit? Comment marche-t-il personnellement dans cet amour? Tout cela, c'est une autre question. Le fait n'en demeure pas moins une réalité pour tous les croyants. En conséquence, l'espérance ne peut jamais rendre honteux. Dieu ne retire pas ses yeux de dessus le juste. Voir Job 36, verset 7.
Il ne retire pas ses yeux de dessus le juste, et celui-ci est avec les rois sur le trône, et il les fait asseoir à toujours, et ils sont élevés.
Or l'amour de Dieu n'est pas seulement versé dans nos cœurs pour que nous en jouissions. Il a été aussi manifesté en dehors de nous, et cela par une œuvre accomplie, complètement en dehors de nous, lorsque nous nous trouvions dans un état de complète incapacité et de profond abaissement. Car, continue l'apôtre, Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour des impies, verset 6. Oui, ce n'est que sur ce fondement que l'amour de Dieu pouvait être versé dans nos cœurs. C'est au temps convenable que l'œuvre a été faite, c'est-à-dire quand l'accomplissement du temps fut venu. Galates 4, verset 4.
Mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi.
Et que l'état de l'homme se fût montré irrémédiable. C'est ce qui nous montre toute la perfection de cet amour. C'est un tel amour qui seul pouvait s'occuper d'êtres qui n'avaient rien pour attirer, qui n'avaient que leur culpabilité et leur état de corruption. L'amour de Dieu, ce qu'il est en lui-même, pouvait seul l'engager à laisser son Fils mourir pour des êtres sans force et impies. Aucune créature n'est capable d'agir de cette manière. Un homme ne peut pas aimer ainsi, car, à peine, pour un juste, quelqu'un mourra-t-il, car, pour l'homme de bien, peut-être, quelqu'un se résoudrait même à mourir, verset 7. C'est pourtant ce que Dieu a fait. Mais Dieu constate son amour à lui, envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, verset 8. Dieu seul peut aimer de cette manière. Il faut à l'homme un motif extérieur qui agisse sur lui. Dieu n'en a pas besoin. Il est amour. Il a aimé le monde mauvais et impie, à tel point qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les objets de son amour étaient des pécheurs haïssables, impurs et n'ayant rien de bon en eux-mêmes. Seul le sacrifice de son bien-aimé pouvait leur venir en aide. Toutefois, rien de moindre non plus ne pouvait suffire à son amour. Dieu merveilleux. Son amour dompte l'homme fier et orgueilleux, gagne l'être pauvre et sans force, et réchauffe les cœurs froids et indifférents. Il donne la paix et la joie au cœur de l'enfant et remplit d'adoration l'homme fait. le devoir le plus sacré de la créature sauvée est de rendre témoignage de cet amour dans le monde, de le chanter et de le publier. Que sont les résultats les plus élevés et les plus nobles de la sagesse humaine à côté de cet amour? Ils sont comme un brouillard froid et sombre à côté des rayons chauds et bienfaisants du soleil. Oui, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. S'il en est donc ainsi, si l'amour a agi de cette manière, lorsque nous étions encore pécheurs, beaucoup plus tôt, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Verset 9. La conséquence est aussi simple et concluante que possible, mais l'apôtre l'approfondit encore en ajoutant « Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Verset 10. Si la mort du Fils de Dieu a réconcilié avec Dieu des ennemis et les a sauvés de la colère qui va venir sur cette terre et ses habitants, sa vie ne sauvera-t-elle pas ceux qui sont réconciliés et qui sont appelés amis et frères de Christ? Si un Christ mort a donné à des pécheurs impies le salut et la vie, est-ce qu'un Christ vivant, à la droite de la majesté de Dieu, laissera périr dans le chemin ceux qui ont été amenés à un si grand prix, dans de telles relations nouvelles et saintes avec Dieu? Nous ne pourrions pas imaginer des conclusions plus claires et plus décisives que celles que le Saint-Esprit nous donne ici. Après avoir traité la chute profonde de l'homme, l'apôtre, par ses paroles, éloigne de nos cœurs toute crainte, et donne aux cœurs les plus craintifs et aux consciences les plus sensibles un parfait repos. Notre état naturel est exposé sans réserve. Nous étions sans force, impies, des pécheurs et des ennemis, et ensuite il nous est montré comment l'amour de Dieu apparaît à toutes les conséquences de notre misère sur le terrain de la justice. L'amour seul n'aurait pas pu nous sauver de la juste colère de Dieu. Il fallait d'abord que, par le don de son Fils unique et bien-aimé, il créa un fondement juste sur lequel il put agir envers nous en grâce. C'est ce qui a été fait par l'œuvre accomplie, Dieu en soit loué éternellement. Ainsi nous sommes amenés à Dieu, nous avons compris ce que signifie la rédemption et la justification, et, ayant été rendus participants de la nature divine, nous possédons la précieuse assurance que nous sommes en Dieu et qu'il demeure en nous. Nous sommes sur le chemin de la gloire, nous éprouvons chaque jour la bonté et la fidélité de Dieu. En un mot, nous le connaissons et pour cette raison, nous ne nous glorifions pas seulement de ce qu'il a fait ou fera encore, de ce qu'il nous a donné ou nous donnera encore, mais nous nous glorifions en lui-même. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant reçu la réconciliation. Verset 11. Ce n'est pas la gloire, ni les afflictions et leurs résultats bénis qui sont devant l'esprit de l'apôtre, mais c'est Dieu lui-même. Un enfant intelligent et reconnaissant ne se réjouit pas seulement des dons qu'il a reçus ou de ceux qu'il recevra encore de son Père, mais il est heureux avant tout de ce qu'il possède un Père si fidèle et si plein d'amour et des relations qu'il peut avoir avec lui. Il apprend chaque jour à le mieux connaître, il entre toujours davantage dans ses pensées. C'est sa joie journalière et toujours plus grande de cultiver des rapports avec son Père. Il se glorifie en lui. C'est ainsi que nous pouvons nous glorifier en Dieu comme étant notre Dieu et Père. Quel privilège inappréciable! Plus nous le comprenons et plus nous le réalisons, plus notre joie et notre jouissance de la grâce sont profondes. Nous jouissons déjà ici-bas de ce qui sera le sujet le plus élevé de notre joie en haut. Nous jouissons de Dieu lui-même, par notre Seigneur Jésus-Christ, comme de l'objet infini, mais déjà actuel de la nouvelle nature. Cette nature en est capable, parce que le Saint-Esprit habite en nous et révèle Dieu à nos âmes. Nous jouissons avec reconnaissance des dons de Dieu, mais le donateur lui-même, en qui nous avons notre joie, est plus élevé et plus glorieux que tous les dons. Il est le Dieu saint, mais sa sainteté ne nous effraie pas. Au contraire, nous ne nous sentons bien qu'à la lumière de cette sainteté. Elle fait notre joie. Si nous nous demandons maintenant comment cette grande chose a été faite, comment cette impossibilité a été rendue possible, la réponse est par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant reçu la réconciliation, une bénédiction dont le premier Adam n'aurait jamais pu jouir dans son innocence, est devenue maintenant, dans le second Adam, la part de ceux qui, autrefois, étaient des enfants de colère, comme aussi les autres. Le Seigneur lui-même dit à ses disciples, la nuit, avant de souffrir et de mourir, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. La chose a été faite, l'œuvre accomplie, et ses résultats sont notre part pour l'éternité. » Versets 12 à 21.
Lecture de la parole. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Mais la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui ne péchèrent pas selon la ressemblance de la transgression d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais n'en est-il pas du don de grâce comme de la faute? Car si par la faute d'un seul plusieurs sont morts, beaucoup plus tôt la grâce de Dieu et le don ont abondé envers plusieurs par la grâce qui est d'un seul homme, Jésus-Christ. Et n'en est-il pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché? Car le jugement vient d'un seul en condamnation, mais le don de grâce de plusieurs fautes en justification. Car si par la faute d'un seul la mort a régné par un seul, beaucoup plus tôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils en vie par un seul, Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute les conséquences de cette faute furent envers tous les hommes en condamnation, ainsi aussi par une seule justice les conséquences de cette justice furent envers tous les hommes en justification de vie. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. Or la loi est intervenue afin que la faute abondât, mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur.
Lecture de l'étude. Au 12e verset de notre chapitre commence, comme nous l'avons déjà mentionné dans l'introduction, la seconde partie de l'épître. L'apôtre ne traite plus depuis ici la question de la culpabilité de l'homme et du pardon, mais il parle du péché comme tel et de la délivrance du croyant, de la puissance et de la domination de ce péché. Si grand et glorieux que soit le pardon, ce n'est pas tout. La lumière de Dieu montre à la conscience réveillée de l'homme non pas seulement les nombreuses fautes qu'il a commises, mais aussi la source d'où l'eau sale a coulé, l'arbre qui a porté les mauvais fruits. La connaissance de cette question, en d'autres mots, la découverte de notre corruption irrémédiable, de notre état naturel sans espoir, est presque plus effrayante encore que le réveil de la conscience au sujet de la culpabilité. Aussi, la nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ pour nous délivrer des profondeurs de cette corruption est alors d'autant plus précieuse. Plus on fait sur le chemin la douloureuse expérience de ce qu'est notre chair, plus aussi on jouit des pleins résultats de l'œuvre de Christ. Pendant des siècles, les croyants n'ont presque rien compris au jugement tombé à la croix sur le vieil homme, et encore moins à la nouvelle position du croyant dans le Christ ressuscité. Ils pensaient qu'ils devaient prendre leur parti d'avoir le péché en eux, étant sans puissance contre le péché, comme des êtres qui, ayant la connaissance de la sainteté de Dieu, s'efforcent sincèrement, mais en vain, de devenir meilleurs. Dieu soit loué de ce que, dans sa grâce infinie, il a fait luire la lumière dans les ténèbres. Écoutons maintenant ce que l'apôtre dit ensuite. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes en ce que tous ont péché. Verset 12. Remarquons d'abord que la pensée exprimée ici n'est reprise qu'au verset 18 par ces mots « Ainsi donc, comme par une seule faute, les conséquences de cette faute furent envers tous les hommes en condamnation, ainsi aussi. » Les versets 13 à 17 forment donc une parenthèse. Pour n'avoir pas pris garde à ce fait, plus d'un lecteur de l'Épître a mal compris ce passage. Mais si on y prend garde, la liaison des pensées est claire et simple. C'est pourquoi. Pourquoi ce c'est pourquoi? Involontairement, on est tenté de se demander où est la liaison avec ce qui précède. Je crois que l'on peut donner à la pensée de l'apôtre le sens suivant. L'amour de Dieu a été manifesté comme la source, la mort et la résurrection de Christ comme le moyen de la réconciliation avec ses résultats glorieux. C'est pourquoi nous pouvons maintenant passer à un autre côté de ce sujet merveilleux, à savoir à la conclusion suivante que, de même que par la désobéissance d'un seul homme, Adam, le chef de la famille humaine, celle-ci est tombée dans le péché et la mort, ainsi aussi, par un seul homme, le second homme, Christ, est devenu par son obéissance le chef d'une nouvelle famille, dont les membres possèdent deux natures, l'une d'Adam et l'autre de Christ. C'est pourquoi, comme par un seul homme, il n'est plus question dans cette partie de l'épître de juifs et de païens. Le mal a été fait, le péché est entré dans le monde, longtemps avant qu'il y eût un peuple d'Israël et une loi. Le péché a bien abondé par la loi en ce que l'homme a transgressé les cinq commandements de Dieu. Mais le péché existait dans le monde avant la loi. Il est entré dans le monde par le premier homme. Aussi les conséquences en retombent sur toute sa descendance. Par le péché est venue la mort, et la mort a passé à tous les hommes, juifs ou gentils. Elle domine, comme roi des épouvantements, sur toute l'humanité, en ce que tous ont péché. Il n'y a pas eu seulement le péché dans le jardin d'Éden. Tous ont péché. Donc l'homme ne meurt pas seulement parce qu'il descend de parents qui sont tombés, et que le péché dit originel habite en eux, mais parce que lui-même s'est rendu coupable. L'homme né sous le péché est bien capable de pécher et enclin à cela, mais il n'est coupable que s'il a conscience de son péché. Dieu peut faire bénéficier de l'œuvre de Christ en grâce des enfants mineurs ou des êtres qui, n'ayant jamais possédé leur intelligence, sont sur le même pied que les enfants, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui est perdu. Et ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ses petits périsse. Matthieu 18, verset 11 et verset 14.
Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ses petits périsse.
C'est une pensée extrêmement consolante et qui nous montre la grandeur de la grâce de Dieu. Mais cela ne change rien au fait sérieux que l'homme a encouru la mort parce qu'il a péché. Si même la chute d'Adam est ce qui a occasionné en premier lieu pour l'homme le terrible sort de mourir sans Dieu, il y a de plus pour chacun, à côté du péché d'Adam, les conséquences de sa culpabilité personnelle. Si donc, comme la parole de Dieu nous le montre toujours à nouveau, la faute d'un seul homme a amené tous ses descendants et toute la création sous le jugement de la mort, est-il étonnant ou est-ce en contradiction avec le caractère de Dieu qu'il introduise par un seul homme une justification de vie qui est à l'intention de tous les hommes, verset 18. Au contraire, toutefois, avant d'entrer plus en avant dans le développement détaillé et intéressant de cette question, nous devons nous occuper du contenu de la parenthèse, versets 13 à 17. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi, verset 13. La présence de la mort était la preuve irréfutable que le péché existait, puisque la mort est le salaire du péché. Une action ne devient pas seulement un péché parce qu'elle est interdite par la loi. La loi, il est vrai, change le caractère du péché en en faisant la transgression d'un commandement. C'est pourquoi, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Chapitre 4, verset 15, où le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Mais si au commencement il n'y avait pas de loi, les hommes avaient néanmoins une conscience et un sentiment du devoir, plus ou moins obscur, vis-à-vis du Dieu inconnu. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, et la conscience accusait les hommes, alors même qu'ils n'avaient pas transgressé un commandement de Dieu. Aussitôt qu'il y a une loi, il en est autrement. La loi met en compte le péché, l'enregistre dans ses livres, et fait abonder la transgression. Le péché a un sens beaucoup plus étendu et général que la transgression. Le péché, comme nous l'avons vu, ne peut être compté comme transgression que si l'on sait par une loi que ce qu'on fait est mauvais. Mais, continue l'apôtre, la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui ne péchèrent pas selon la ressemblance de la transgression d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Verset 14. Jusqu'à Moïse, le législateur, le péché ne fut donc pas mis en compte. Toutefois, la mort a toujours régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché de la même manière qu'Adam, c'est-à-dire qui n'avaient pas transgressé de commandement. Remarquons la différence. Adam avait reçu un commandement, à savoir de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Moïse reçut la loi, l'ensemble des commandements de Dieu. Adam transgressa le seul commandement reçu, et Israël toute la loi. Tous deux se rendirent ainsi coupables de la même manière. Il n'en fut pas de même des hommes qui vécurent dans l'intervalle, avant et après le déluge. Ils ne possédaient ni un commandement isolé, ni une loi, mais ils péchèrent, et c'est pourquoi la mort a régné depuis la chute jusqu'à l'apparition de la loi. L'apôtre pense évidemment à un passage du prophète Osée quand il parle de la transgression d'Adam. Là, Dieu accuse son peuple terrestre d'avoir agi perfidement et transgressé l'alliance comme Adam. Osée chapitre 6 verset 7.
Mais eux, comme Adam, ont transgressé l'alliance. Là, ils ont agi perfidement envers moi.
L'alliance et les commandements donnés étaient différents dans les deux cas, mais en principe, Adam et Israël péchèrent de la même manière. Comme nous l'avons dit, il en fut autrement dans l'intervalle entre Adam et Moïse. Il n'y avait pas alors des païens ou des nations et un peuple séparé d'eux par des ordonnances légales, mais une seule grande famille humaine, sur laquelle régnait indistinctement le péché et la mort. Or, que veut dire l'apôtre quand il nomme Adam une figure de celui qui devait venir? Adam, le chef de la première création, n'eut des fils qu'après sa chute, et fit ainsi peser sur tous ses descendants les conséquences de cette chute. Le commencement de la Genèse nous donne la clé pour comprendre l'histoire entière de la race humaine jusqu'à nos jours. La transgression d'un seul, Adam, a apporté la mort aux plusieurs, c'est-à-dire à tous ses descendants, soit qu'ils aient péché en transgressant des commandements, soit sans transgresser des commandements. Pareillement, la merveilleuse grâce de Dieu s'est tournée, par un seul homme, Christ, vers les plusieurs, c'est-à-dire tous ceux que Dieu lui a donnés et dont il est devenu le chef, les rassemblant en une seule famille. Cela nous fait comprendre dans quel sens Adam était une figure de Christ. Le premier et le second homme sont devenus chefs d'une famille, d'une race. Le premier comme créature tombée dans le péché et la mort. Le second comme homme victorieux et ressuscité en justice et en vie. Mais n'en est-il pas du don de grâce comme de la faute? Car si par la faute d'un seul plusieurs sont morts, beaucoup plus tôt la grâce de Dieu et le don ont abondé envers plusieurs par la grâce qui est d'un seul homme Jésus-Christ. Verset 15. S'il est juste, et c'est un fait qu'aucun juif, même aucun être humain ne pouvait contester, que toute la descendance d'Adam doive supporter les conséquences de la transgression de leur père, il est alors encore beaucoup plus juste que les résultats de la grâce de Dieu manifestée en Christ deviennent la part de tous ceux qui le reçoivent par la foi. Ce qu'Adam, comme figure de celui qui devait venir, fut en malédiction pour tous ses descendants, Christ l'est devenu abondamment, en bénédiction, pour tous ceux qui lui appartiennent. Pourrait-il en être autrement en présence de la source de cette grâce et du canal par lequel elle a coulé jusqu'à nous? Non. Si par la transgression d'un seul plusieurs sont morts, ainsi aussi par un seul, Jésus-Christ, la grâce de Dieu a abondé envers plusieurs. Remarquons ici et dans les versets suivants l'emploi du mot plusieurs. Nous pourrions peut-être penser que le mot tous aurait été plus simple et plus approprié. Or, à part le contraste voulu entre les mots un seul et plusieurs, l'Esprit de Dieu a évidemment choisi cette expression pour éviter tout malentendu. En rapport avec Adam, ce mot plusieurs comprend naturellement tous les hommes, parce qu'Adam est le père de tous et leur a communiqué à tous sa nature. Par contre, en rapport avec Christ, il ne peut s'appliquer qu'à tous ceux qui sont venus à Christ et qui sont devenus en lui, le ressuscité, participant de la nouvelle nature. Le mot tous aurait pu donner lieu dans ce cas à une interprétation entièrement fausse. Or, il n'y a pas seulement une différence de mesure, mais aussi une différence de nature. Si jusqu'ici nous avions devant les yeux deux classes de personnes, maintenant nous avons les choses ou les actes sur lesquels cette différence est fondée. Et n'en est-il pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché? Car le jugement vient d'un seul en condamnation. Mais le don de grâce de plusieurs fautes en justification, verset 16. Une seule faute du chef de la race humaine a amené la condamnation, tandis que le don de grâce de Dieu libère les croyants de plusieurs fautes et les amène dans une position de justice. Poursuivant cette pensée, l'apôtre continue. Car si, par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul, beaucoup plus tôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils en vie par un seul Jésus-Christ, verset 17. On pourrait penser que, d'après la première partie de la phrase, la deuxième partie devrait être « beaucoup plus tôt la vie régnera ». Mais non, nous lisons « beaucoup plus tôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront en vie ». Combien la puissance de la grâce s'est montrée triomphante, surmontant tous les obstacles. En réalité, elle a dépassé de beaucoup le péché et ses conséquences. Tous ceux qui croient en Jésus, qu'ils soient pécheurs d'entre les nations ou transgresseurs de la loi, reçoivent le don libre et surabondant de la grâce qui, non seulement éloigne leur culpabilité et leur péché, mais qui leur donne aussi la vie éternelle, par un seul Jésus-Christ. Le péché du premier homme a déchiré le vêtement de l'innocence et a introduit la mort. Le sang de Jésus-Christ donne aux croyants le vêtement de la justice divine, les introduit dans une toute nouvelle position, infiniment plus glorieuse que celle qu'Adam possédait avant la chute, leur donne la vie éternelle et, dans cette vie éternelle, une place prééminente. Non seulement ils ne peuvent plus perdre ce qu'ils ont reçu, mais ils régneront en vie par Jésus-Christ. Nous voyons toujours à nouveau combien les opérations de la grâce divine correspondent à la nature et à la gloire de Christ. Elles dépassent infiniment les conséquences du péché, et nous pouvons comprendre que l'apôtre, poursuivant son développement, finisse par s'écrier dans une profonde et sainte admiration « Que dirons-nous donc ?» Comme nous l'avons déjà remarqué, cette longue parenthèse se termine au verset 17, et la pensée interrompue au verset 12 est reprise maintenant en rapport avec l'enseignement des versets 13 à 17. Ainsi donc, comme par une seule faute, les conséquences de cette faute furent envers tous les hommes en condamnation, ainsi aussi par une seule justice, les conséquences de cette justice furent envers tous les hommes en justification de vie. Remarquons ici d'abord de nouveau le mot « tous les hommes ». Dans les deux cas, les résultats de ce qui a été fait s'adressent à tous les hommes. Pas un seul n'est exclu. Il s'agit exclusivement dans ce verset de la destination primitive ou du but de l'une comme de l'autre action. L'une produit la condamnation, l'autre la justification de vie. Il ne s'agit pas ici de savoir si la destination et le but sont changés par la grâce de Dieu ou par l'incrédulité de l'homme, ou en d'autres termes, s'il y a des personnes qui, par la foi, échappent à la condamnation et d'autres qui repoussent la grâce de Dieu qui leur est offerte. Ayant considéré la portée des deux actes, nous en venons avec le verset 19 aux résultats réels dus aux actes des chefs des deux familles. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. L'Écriture nous enseigne d'une manière certaine que tous les hommes ne sont pas justifiés. L'Esprit Saint devait donc employer ici de nouveau l'expression « plusieurs » pour désigner la classe d'hommes qui, dans les deux cas, était jointe à son chef. Il va de soi que, dans le premier cas, toute la race humaine, ainsi tous les hommes, comme au verset 18, est comprise, car tous se trouvent par nature sur le terrain de leur père, dans la position de pécheur. Pour eux, il n'y a pas de différence. De nouveau, le fait sérieux est confirmé. La famille humaine entière, tous ceux qui sont d'Adam, sont dans la même position que le père de leur race. Ils sont des pécheurs, séparés de Dieu, ennemis de Dieu, et n'éprouvant pas le besoin de revenir à lui. Dans le second cas, il s'agit également des plusieurs. Ce sont ceux qui sont joints au seul, tous ceux qui sont du Christ, et qui, par la foi en lui, ont été constitués justes, les enfants que Dieu lui a donnés. Au verset 18, nous avons vu que, par une seule justice, les conséquences de cette justice furent envers tous les hommes en justification de vie. Ainsi donc, l'évangéliste peut s'adresser au monde entier et annoncer l'heureux message touchant le Fils de Dieu. Toutefois, l'œuvre du salut n'a des effets réels et définitifs que pour ceux qui acceptent la bonne nouvelle. Ce sont également, dans chaque cas, les plusieurs qui se trouvent sous les conséquences de l'action d'une seule personne. L'une des classes, les pécheurs, par la désobéissance d'Adam, l'autre classe, les justes, par l'obéissance de Christ. Après avoir développé en détail le sujet des deux familles et de leurs chefs, l'apôtre dit encore un mot sur un sujet qu'il a déjà abordé à diverses reprises, la loi. Dans quel but a-t-elle été donnée? L'homme religieux pourrait penser que c'est afin de produire une justice devant Dieu, ne fût-elle même qu'humaine. La loi ne promettait-elle pas la vie à celui qui l'observait? L'apôtre dit tout autre chose. Or la loi est intervenue afin que la faute abondât, verset 20. Certes, il ne pourrait pas y avoir de résultat plus humiliant pour l'orgueil de l'homme. Le péché comme tel était là avant que la loi fût donnée. Mais par la loi, il devait se manifester dans toute son horreur, c'est-à-dire comme étant une révolte directe contre les cinq commandements de Dieu et un mépris de son autorité. Dieu ne donnait pas une loi afin que, par elle, le péché abondât. Comment pourrait-il, en quelque manière, être le promoteur du péché? Mais il pouvait bien donner une règle parfaite pour la marche de l'homme, afin de lui montrer, par ce moyen, ce qui en était réellement de lui. La loi est intervenue afin que la faute abondât, ou, comme nous le lisons dans un autre passage, afin que le péché parût péché. Oui, qu'il devint par le commandement excessivement pécheur. Chapitre 7, verset 13.
Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort, qu'ainsi n'advienne? Mais le péché, afin qu'il parût péché, m'a causé la mort par ce qui est bon, afin que le péché devint par le commandement excessivement pécheur.
La loi n'a fait que mettre pleinement en lumière l'état de l'homme déchu, en faisant revivre et se développer d'une façon effrénée sa propre volonté, son orgueil et les passions du péché qui habitent en lui. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur, versets 20 et 21. N'est-elle pas digne d'adoration cette réponse de la grâce de Dieu à la faute et à la corruption de l'homme? Elle agit d'une manière absolue et triomphe le plus glorieusement possible là où il n'y avait plus aucun espoir pour l'homme et où un jugement irrémédiable l'attendait. Et ce triomphe n'a pas lieu au détriment de la justice de Dieu. Non, la grâce règne par la justice, en vertu de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Un juif fidèle à la loi aurait pu, dans le meilleur cas, lequel ne pouvait jamais se présenter, obtenir la vie sur cette terre comme récompense de ses actions, tandis que le croyant reçoit aujourd'hui la vie éternelle, parce que Dieu le voit devant lui, sur le fondement de l'œuvre de son Fils bien-aimé, dans une position toute nouvelle et correspondant à ses conseils éternels. Dieu a montré sa justice en ceci, c'est qu'il a placé à sa droite son Fils qui, comme homme, l'a parfaitement glorifié. Aujourd'hui, non seulement il justifie de tous leurs péchés ceux qui croient en Jésus, mais aussi il leur accorde une vie qui a la gloire comme but. Comme donc le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce règne aujourd'hui. L'heure viendra en laquelle la justice règnera. Malheur alors à tous ceux qui ont négligé le temps de la grâce. Dieu est juste et doit maintenir sa justice. Il ne peut supporter à toujours le péché devant ses yeux. Combien terrible sera le châtiment quand le temps de la grâce de Dieu aura pris fin et que son jugement atteindra tous ceux qui auront négligé ou même méprisé son salut. C'est pourquoi bienheureux sont ceux qui, étant au bénéfice de la grâce, échapperont à la colère à venir.